Les nuits de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les violences à l'égard des femmes, des violences psychologiques, sexuelles, verbales, physiques, des chiffres monstrueux en France comme ailleurs. Alors comment lutter contre ces violences ? Il existe certes une journée internationale dédiée chaque année à ces violences, c'est le 25 novembre. Il existe aussi un guide en France de l'éducation au respect, pour que les garçons et les filles puissent grandir dans le respect de leurs droits. Voici une émission témoignage, témoignage de femmes, témoignage bouleversant, témoignage aussi d'enfants, d'une jeune fille. La pression psychologique, les coups, les violences administratives, la violence financière, les violences sexuelles et, in fine, les homicides. Comment protéger les femmes ? Rediffusion d'un Sur les docs proposé pour la première fois sur France Culture le 27 mars 2007.
Nous, femmes vivant dans les quartiers de banlieue, issues de toutes origines, croyantes ou non, lançons cet appel pour nos droits oppressés socialement par une société qui nous enferme dans les ghettos, étouffés par le machisme des hommes de nos quartiers, qui, au nom d'une tradition, volonté de conquérir nos droits, notre liberté, notre féminité, assez de misérabilisme, marre qu'on parle à notre place, assez de silence avec dans les débats publics, sur les violences, la précarité, assez de leçons de morale, notre condition s'est dégradée.
Le 13 novembre 2005, Sherazade, 19 ans, était brûlée vive dans la rue à Neuilly-sur-Marne. Son crime ? Ne pas avoir accepté la proposition de mariage d'un homme. Par miracle, Sherazade échappe à la mort. L'association Ni pute ni soumise continue de sensibiliser l'opinion publique et affirme haut et fort qu'on a le droit de dire non. Selon l'enquête Enfèvre réalisée par Marie Jaspard en 2000, une femme sur 10 serait victime de violences en France. La journée du 25 novembre est aujourd'hui consacrée aux violences faites aux femmes. Ernestine René, présidente de l'Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, nous amène à réfléchir sur la prévention de ces délits. Sur les docks, violence à l'égard des femmes, un documentaire de Johanna Bedeau et Guillaume Baldi.
Alors, je suis Ernestine Renet, je suis responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes du Conseil général de la Seine-Saint-Denis et je suis psychologue scolaire.
Alors, Ernestine Renet, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi on a créé une journée spécifique sur l'élimination de la violence faite aux femmes ?
Alors, c'est l'ONU, hein, la journée est partie de l'ONU. L'idée, si vous voulez, c'est que dans les années 90, au début 90, dans les conférences internationales, les femmes se présentaient plutôt comme victimes des violences. En 95, à la Conférence mondiale des femmes à Pékin, nous étions dans les ONG 40 000, et à ce moment-là, on n'était plus victimes, mais on dénonçait. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est à la suite de ça qu'en 1999, l'ONU a décidé de créer une journée internationale qui existait déjà en Amérique latine, hein, où les femmes, sur ces questions-là, étaient très revendicatives déjà. C'est-à-dire que le machisme en Amérique latine, c'est assez connu. Et elles étaient vraiment déjà en lutte. Et donc, ils ont repris la journée du 25 novembre en référence aux femmes d'Amérique latine. Mais l'idée, si vous voulez, est née à Pékin quand on a dit « il faut vraiment que ça arrête » et qu'on a... On a cessé d'être victime et voyez de simplement décrire l'ampleur des choses, mais on a dit maintenant il faut des actes. Et d'ailleurs de Pékin est né un programme d'action qui demandait au gouvernement qui signait ce programme d'action d'avoir des statistiques fiables, et c'est de là qu'est née l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes. Il y a un vrai, ça a eu une vraie efficacité, Pékin.
La question des violences faites aux femmes, en fait...
Françoise Gaspard, commission de la condition de la femme à l'ONU.
...est apparue à l'agenda politique international et national de façon relativement récente. C'est à partir de la première conférence mondiale sur les femmes en 1975 à Mexico que la question a commencé d'émerger sous la pression des organisations non gouvernementales. Il est intéressant d'ailleurs de voir que dans la Convention internationale sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, le mot violence n'apparaît pas. C'est vraiment progressivement qu'on a pris conscience des multiples violences dont les femmes sont victimes, des violences domestiques, des violences physiques, des violences psychologiques, et qu'il y a eu une mobilisation sur ces questions, mais il reste encore beaucoup à faire. La conférence de Pékin, qui est venue après celle de Mexico, après celle de Nairobi, a mis l'accent sur la nécessité pour les États mettre en place des politiques pour lutter contre les violences, et d'abord de les rendre visibles. Il y a une espèce de sorte de continuum dans les violences. Ça commence par exemple le fait que dans le droit, les femmes ne sont pas les égales des hommes. On le voit encore dans un certain nombre de pays. Il a fallu attendre 2006 en France, par exemple, pour que l'âge du mariage soit le même pour les garçons et les filles. Il était de 15 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons jusqu'à l'année dernière, ce qui autorisait, par exemple, les mariages contraints, les mariages forcés, parce que en réalité, les filles qui se mariaient à 15 ans le faisaient avec l'autorisation des parents. Elles n'avaient pas une autonomie par rapport à l'acceptation du mariage. Violence donc autorisée dans la loi, et ensuite dévalorisation des femmes, violence de toutes sortes qui conduisent au mariage forcé, je l'ai dit, mais aussi aux mutilations sexuelles, aux crimes dits d'honneur, etc.
Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a chez l'homme trois leaders qui essaient d'imposer leur loi. Cette lutte interne permanente est la plus grosse source d'embrouille. Elle oppose depuis toujours la tête, le cœur et les couilles. Que les demoiselles nous excusent si on fait des trucs chelous, si un jour on est des agneaux et que le lendemain on est des loups. C'est à cause de ce combat qui s'agite dans notre corps. La tête, le cœur, les couilles discutent, mais ils sont jamais d'accord. Mon cœur est une vraie éponge, toujours prêt à s'ouvrir, mais ma tête est un soldat qui se laisse rarement attendrir. Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pécho cette brune, mais il y en a une qui veut pas, putain, ma tête me casse les burnes.
Et c'est la pause, on se retrouve dans 10 minutes, merci beaucoup.
Bonjour, je suis Maryse Jaspard, je suis maître de conférence à l'Université de Paris 1, et je suis à l'INED, co-responsable d'unité genre démographie société. Autrement dit, je suis enseignante à l'université et chercheuse.
Maryse Jaspard, sur les violences faites aux femmes, est-ce qu'on peut donner déjà quelques chiffres ?
Oui, on peut donner des chiffres. Alors moi, les chiffres, je suis dedans, donc je relativise. Alors, le problème, c'est que quand on donne des chiffres, je donne un pourcentage, on va dire « Oh, c'est rien du tout bon. ». Et si je donne le chiffre qui correspond à la population, on va me dire « Oh, c'est énorme ». Alors, je vais vous dire, par exemple, par an, il y a 0,3% de viols qui sont commis sur des femmes, ou 0,3% de femmes âgées de 20 à 59 ans sont victimes de viols. Bon, vous me dites « Oh, c'est rien du tout, bon, 0,3% ». Je vous dis « Oui, ça fait, en France, ça fait 50 000 viols par an ». Bon, alors ça vous fait un autre effet, je vois vos yeux qui bougent. Bon, alors voilà, c'est ça les chiffres. Les chiffres, on peut en faire ce qu'on veut. Alors je sais bien qu'on est très friand de chiffres, mais il y a deux choses. Il y a les pourcentages qui sont la réalité, ça permet de relativiser. Tout le monde n'est pas victime de viol. Bon, ça c'est bien. Et puis il y a le chiffre global qui dit, mais il y en a 50 000, il faut pour ces 50 000 trouver une solution. C'est trop, il faut faire quelque chose. Il faut à la fois faire de la répression et de la prévention. Donc vous voyez, il y a deux façons de manipuler les chiffres. C'est pareil si on prend les femmes victimes de violences conjugales. On a dit le chiffre que vous avez entendu, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. C'est vrai, on l'a mesuré, on a fait des indicateurs, on a fait des statistiques. Hein, donc, mais ce chiffre-là, ça veut dire c'est des femmes qui sont victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Et là, sur ces une femme sur 10, il y en a 3%, hein, je simplifie un peu, j'arrondis les chiffres, 3% qui sont victimes à la fois de violences physiques, sexuelle, psychologique et verbale. Parce qu'en général, il y a des cumuls de violences. On n'a pas comme ça une violence isolée. Si on est battu, on a forcément tout le reste. Et le reste, les réflexions, le contrôle, l'enfermement, enfin tout ce qu'on peut imaginer d'horreur dans les violences psychologiques, c'est extrêmement destructeur. C'est quelquefois dans une vie de couple, sur une année, imaginez que vous avez au cours d'une dispute, par exemple, qu'il y a une gifle qui part. D'abord, ça peut partir aussi des femmes, parce que les femmes ont quelquefois aussi la main leste. Bon, ça n'a rien à voir avec une pression psychologique exercée chaque jour sur une personne qui la détruit à petit feu. Hein. Donc voilà, il faut penser à ce qu'est la violence pour donner des chiffres. Hein. Donc, une femme sur 10 victime de violence psychologique, verbale et physique, ça fait quand même beaucoup, mais en chiffre absolu, si on prend 10%, ça doit faire de l'ordre de... On est effectivement dans à peu près l'ordre de 2 millions, on va dire, mais des femmes battues, c'est autre chose. Les femmes battues, ça fait... On arrive à peu près à 200-300 000, si vous voyez. Si on est... Alors, moi, ce que je... Aussi, un des résultats de l'enquête important, c'est de casser l'image de la femme battue. Parce que la femme battue, c'est quand même... Ça désigne d'abord moins de femmes. Hein, et ça désigne seulement une forme de violence. Et c'est plus stigmatisant. Tandis que parler de femmes victimes de violences conjugales, par exemple, on est en situation de violence conjugale, on est même pas victime, on est dans une réalité forte et à prendre en compte nécessairement, mais qui concerne plus de gens et qui quand même est moins stigmatisante et moins péjorative que celle de femme battue. Donc ça, c'est aussi un élément important, c'est de changer le vocabulaire pour dire les choses et changer les images. Au niveau de la prévention et des campagnes, justement, après l'enquête en VEF, la campagne a été changée, et justement, la campagne est passée de femmes battues avec un œil au beurre noir, à peu près dans des affiches en noir et blanc, rouge, assez dramatique, à une campagne de prévention, avec une image de femme et avec lever le silence, parler, etc. Oui, donc, on a changé d'image à ce moment-là.
Quand un petit garçon grandit, il devient un homme. Quand une petite fille grandit, elle devient une femme, pas une pute. Ni pute ni soumise diffuse le guide de l'éducation au respect pour que les garçons et les filles puissent grandir dans le respect de leurs droits.
Une jeune femme de 23 ans, Ghofran Adawi, a été tuée à coups de pierre par un jeune homme de 18 ans. Le suspect interpellé par la brigade criminelle aurait reconnu les faits, sans donner de mobile à son geste. Ce crime déclenche une émotion considérable dans la cité phocéenne.
Parce que moi, quand je vois quand un gars, je sais pas, qu'il met une claque, moi, ça me rappelle quand mon père, il battait ma mère. Sinon, quand les gars, je sais pas, ils tapent, ils font des trucs, mais ils se rendent pas compte, je pense. On prend sur nous et on se dit, ça passera. Je sais pas, on a envie que ça s'arrête un jour, mais... On a l'impression que ça s'arrêtera pas et, je sais pas, on retrouve ça... tout le temps. C'est pas qu'il nous frappe forcément, mais il suffit d'un petit truc qui montre le geste que, je sais pas, il pourra voir si tu devenais... On a l'impression qu'on n'a pas trop notre mot à dire, en fait. Je crois que c'est ça, on n'a pas à dire quelque chose quand les gays font quelque chose. Et des fois, bon, moi, j'ai une copine, elle a un fort caractère, pas. Moi, je suis pas du genre, ah, tu me dis quelque chose, ça... Moi, si ça me blesse, je reste dans mon coin, je chiale et, ouais, et puis après, ça passe. Parce que son guide dit t'es moche, il va se dire ouais, peut-être celle-là elle est moche, on a le plus lui dire ça, ça lui fera rien, mais je sais pas, ça joue beaucoup en fait. Je sais pas, ça joue sur. Ça nous fait des complexes, ça nous fait des envies de partir, de. Je sais pas, il y a beaucoup de trucs, mais. Là, c'est une question de t'es moche, moi. Si, même si je lui dis toi aussi t'es moche, ça aura pas le même impact, je crois pas. Parce que je pense que les filles c'est plus sensible, c'est plus ça blesse. On est choqué par rapport à beaucoup de choses, ça nous complexe, après ça devient beaucoup de trucs. Parce que moi il y a des trucs avant ça me disait rien, maintenant. Je suis complexée par ça, je me demande des fois si il y a beaucoup de trucs qui disent comme ça, moi aussi ils sont pas, peut-être ils ne rendent pas compte, peut-être si, mais je sais pas, mais après ça a beaucoup de trucs après. Je sais pas, il y a beaucoup de conséquences après, mais on essaie de gérer du mieux qu'on peut.
Je te demande pardon.
Ah, je disais que t'étais bonne.
Ah bon. franchement, t'es trop bonne.
Il y a un problème.
Exactement, il y a un problème.
Mais c'est quoi le problème? Vous n'avez pas à me parler comme ça, vas-y, va parler.
Ah, pourquoi ça te fait quoi qu'on me dise ça?
Parce que je me permets de me dire qu'il y a un respect envers les filles.
Attends, t'as pas dit que t'étais moche, on t'a dit que t'étais bonne.
Il y a deux façons de me dire.
Ouais, c'est un compliment là.
Enfin, je veux dire, à la base, c'est censé être un compliment. Après, c'est peut-être mal dit, mais bon, c'est pas non plus la peine de se révolter pour des mots, quoi. Je veux dire, c'est que des mots. Et voilà quoi, c'est pas parce que j'ai entendu des filles qui disaient pendant la pièce de théâtre qu'on avait fait on laisse passer ça, après il y a d'autres choses qui vont passer, mais bon c'est pas parce qu'on dit t'es bonne et qu'on comprend bien que tout va passer quoi, ça c'est ridicule.
Moi je l'emploie hein, c'est... Ouais. Mais bon, c'est pas spécialement pour porter atteinte s'il est... Voilà, c'est notre génération, c'est comme ça, tout le monde parle comme ça. Donc. Ouais. Maintenant, ça devient de plus en plus tôt, de toute façon. Ouais. Même les petits. Hein.
Ernestine René, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce qu'on met derrière le terme violence faite aux femmes? Qu'est-ce qu'on entend par là?
On entend plusieurs choses. Bon, la première, peut-être la plus évidente que tout le monde a dans la tête, c'est les femmes battues. Quand on dit violence, souvent on pense aux violences physiques. Mais en fait, ce qui est le plus répandu, ce ne sont pas les violences physiques, ce sont les violences psychologiques et les violences verbales. Donc en fait, dans violences psychologiques, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que le compagnon, le conjoint ou n'importe, soit plutôt du côté d'isoler la femme ou bien de la dévaloriser. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus grave en fait. Et puis, les violences verbales, ça participe de la dévalorisation, de l'humiliation et, bien sûr, d'un sentiment d'insécurité pour la femme. Donc, ce n'est pas forcément même des gros mots. Je peux être très désagréable. Si je dis tous les jours, mais tu ne sais rien faire, tu as mal fait cuire le beefsteak, regarde les enfants, tu ne sais pas t'en occuper, il y a de la poussière sur la télé, ça paraît anodin ce que je suis en train de dire. Sauf que si c'est à longueur de journée, je vais me sentir complètement dévalorisée et je vais me demander, quand il va rentrer tout à l'heure, qu'est-ce qui va encore me sortir? C'est pas vraiment... Vous voyez, ça peut paraître complètement... C'est ce qu'on appelle de la pression psychologique qui peut complètement détruire quelqu'un. Et puis après, derrière, il y a les violences sexuelles, bien sûr, importantes, mais il peut aussi y avoir des violences administratives, genre je retire les diplômes, les papiers, etc., et puis les violences financières, c'est-à-dire pas d'autonomie financière, que la femme travaille ou ne travaille pas d'ailleurs. Et puis récemment, on a commencé à s'intéresser plus à la question des homicides et tentatives d'homicide. Et donc là, il y a plusieurs chiffres qui sont sortis. En l'an 2002, en même temps que l'enquête, on avait une femme meurt tous les 4 jours. Et puis, récemment, l'Observatoire national de la délinquance a sorti le chiffre « Une femme meurt tous les 2 jours ». Et moi, je pense que c'est encore sous-estimé, parce qu'en fait, il y a toutes celles qui ne meurent pas sur le coup, si je peux dire inélégamment, mais qui meurent ensuite. Et donc, plus les tentatives de suicide et les suicides provoqués, à mon avis, c'est beaucoup plus. Si je pense aux femmes, vous savez, dans notre département, en 2006, nous avons eu 8 femmes assassinées, de par leur conjoint ou ex ou petite amie, etc. 8, c'est énorme. Et là-dedans, il y en avait 6 qui avaient porté plainte, qui avaient fait tout ce qu'il fallait. Même parfois, l'homme avait été condamné en sortant de prison à l'occasion du droit de visite pour les enfants. Il avait assassiné la dame, d'ailleurs, dans plusieurs cas, devant les enfants. Donc on est avec un problème grave, c'est comment on protège les femmes, c'est-à-dire comment on met en place un système avec la justice, la police, efficace pour protéger les femmes. Alors on a la nouvelle loi d'éviction du compagnon ou du mari violent, qui date donc d'avril 2006, qui s'étend à tous les ex et à tous les compagnons possibles. Très bien. La question, c'est vraiment comment on les protège. Parce que ces hommes sont des vrais violents. Ce n'est pas des gentils qui, d'un seul coup, s'énervent. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un conflit familial. On est avec des hommes violents qui vont faire mal consciemment à la personne qu'ils veulent garder sous leur contrôle, sous leur coupe. C'est ça, le problème de la violence. Et donc, ce n'est pas ordinaire, si je peux dire. Ça suppose des vrais moyens. Et là, on est quand même en difficulté. Moi, je trouve que on n'arrive pas bien à protéger les femmes. En Espagne, où je suis allée il n'y a pas très longtemps, parce que comme ils ont une loi espagnole, une loi intégrale, comme ils disent, il y a des mesures de protection plus intéressantes que chez nous. Genre, par exemple, je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde. Le ministère des Affaires sociales a créé un portable avec un numéro préenregistré, qui est une plateforme. Donc si je suis victime de violences graves, le procureur peut me proposer ce portable. J'ai un GPS dedans. Si j'ai un GPS, je peux être repéré vite. Donc je peux appeler en appuyant juste sur un bouton, et la police arrive. Avec le GPS, elle sait où je suis, et elle peut venir vite pour me protéger. Et donc le mari ou le compagnon sait que, attention, ça va savoir, voilà. Et je trouve que ça, c'est très important. Si vous voulez, de ce point de vue-là, on est, nous, en France, encore un peu, pas tout à fait dans la protection des personnes.
Ensemble pour dénoncer la violence et l'acte ignoble dont elle a été victime. Et nous sommes là tous ensemble pour dire que nous ne l'accepterons pas et que ce n'est pas qu'un problème de la famille, c'est un problème de la France entière. Et que ce qui s'est passé pour Sarah Jade, la façon dont elle a été traitée parce qu'elle a refusé justement de dire et de céder à la pression, et ben c'est une manière aussi pour nous de vous dire combien nous sommes attachés à votre chagrin et que nous souhaitons que tous ensemble nous puissions faire en sorte que ça n'existe plus dans notre pays, que partout en France, dans notre pays, et ben les hommes puissent vivre normalement, mais que les femmes surtout puissent vivre normalement, et qu'il faut qu'on arrête qu'elles soient victimes de tout et de n'importe quoi, et surtout de ces actes horribles et ignobles.
Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour condamner et dénoncer la violence et pour dénoncer cet acte horrible et inhumain dont a été victime ma sœur, Shahrazad. Nous réclamons aujourd'hui la justice pour Shahrazad, mais nous ne voulons pas la vengeance et ne répondrons pas par la violence. Mais nous voulons que la justice soit faite, que la justice soit rendue.
Je m'appelle Sherazade, j'habite à Neuilly-sur-Marne. J'ai 19 ans, je suis née le 27 mai 1987. Et je suis née au Maroc. Donc j'étais étudiante en première bac pro secrétariat. Et le week-end, je travaillais dans un magasin de vêtements, chaussures. Donc voilà. Bah, ça s'est passé un dimanche matin. Donc je suis sortie de chez moi vers les coups de 9h, en partant justement travailler. Et là, j'ai aperçu quelqu'un qui arrivait en voiture, mais vraiment très très vite. Et je me suis retournée et j'ai reconnu cette personne. C'était un employé du magasin qui travaillait avec moi. Et donc il est sorti et il m'a dit « Aujourd'hui, je vais te tuer. » Alors, j'ai pas très bien compris au départ. Et à un moment, il retourne dans sa voiture et j'ai tout juste eu le temps de m'échapper. J'ai couru et je voyais qu'il courait derrière moi avec un bidon d'essence. Donc il m'a renversé de l'essence et il m'a brûlé. Je me suis même dit, c'est bon quoi, je crois que je vais m'éteindre ce jour-là, je croyais plus revivre quoi. Il a renversé de l'essence sur moi. C'était voulu quoi. Il avait tout le matériel qu'il fallait dans la voiture. C'est un jeune homme de 25 ans, d'origine pakistanaise. Ouais, donc on se connaissait même très bien. Voilà.
Et vous, c'était quelqu'un avec qui tu sortais? C'était ton copain, enfin ton petit copain?
Ouais. Et bon, il m'a fait plein de menaces qui n'ont jamais... Enfin, ça n'a jamais été vrai ce qu'il m'a dit. Des menaces vraiment méchantes, mais bon, à ce point-là, arriver à ce point-là, j'y croyais pas. Je sais même pas quoi dire tellement c'est... Pour moi, c'est inimaginable qu'il fasse ça.
Mais est-ce que tu sais pourquoi il avait envie de te tuer? Est-ce que tu... Enfin, il expliquait ça?
Oui. Oui, c'est parce que je voulais plus de lui. Je voulais pas de lui même, on va dire. Ça s'est passé exactement le 13 novembre 2005. Et nous, on n'était plus ensemble depuis le mois de juin 2005. À partir du mois de fin juillet, j'avais plus de nouvelles de lui. Juillet, août, septembre. Jusqu'à pratiquement la dernière semaine d'octobre, où il m'a rappelé en faisant des menaces. Soit tu te maries avec moi, soit tu meurs, quoi. En venant de lui, quoi, ça m'a... Parce qu'il avait quand même grandi en France, il avait... En sachant qu'il avait encore la mentalité de là-bas, mais il avait quand même une petite partie de sa mentalité qui était vivre comme ici, quoi. Mais les gens, ils changent.
Qu'est-ce qu'il t'a dit quand t'as balancé de l'essence sur toi? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce qu'il est parti en courant? Est-ce qu'il est remonté dans sa voiture?
Non, il a dit « Aujourd'hui, tu vas mourir ». Il a renversé de l'essence et il est parti. Il s'enfuit. Il a couru, il s'enfuit. Il a laissé sa voiture, il est parti à pied. Un voisin qui est venu éteindre le feu avec une couverture et un rabbin qui est venu avec des seaux d'eau.
Et après, il s'est passé quoi? Vous êtes parti en soins et quels ont été les soins?
J'étais dans le coma, donc je ne sais même pas ce qui s'est passé après. Donc j'étais dans le coma, je me suis réveillée, je me suis retrouvée à l'hôpital, je ne pouvais plus bouger.
Et pendant combien de temps, Sherazade?
J'ai fait une semaine de coma naturel et le reste coma artificiel pendant un mois et demi.
Et alors tes soins aujourd'hui, quelles sont les contraintes, quelles sont les séquelles? Est-ce que tu peux juste nous expliquer en fait ce qu'un tel acte peut engendrer sur le corps d'une femme?
Vu que j'ai été brûlée à 68% du corps, Donc j'ai des problèmes au niveau de la main et du bras gauche, qui a été beaucoup touché. Donc j'ai les doigts qui ne répondent plus, les tendons ont été gravement brûlés. J'ai un cou rétracté, ce qui veut dire que mon cou est très 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 court. Donc voilà, quoi, ça pose plein de soucis. Après, il y a plein de petits problèmes dans la vie qu'on ne peut plus faire.
Et tu y vas combien de, tu y vas combien de fois par semaine à l'hôpital ?
Tous les jours. Tous les matins. Au moins une année encore, même deux.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce qu'il a été... Où est-ce qu'il est parti ? Est-ce qu'il est resté en France ?
Non, il est resté, je crois, quelques jours en France. Par ça, il est parti en Espagne. Il a été voir quelqu'un qui l'a aidé à faire des faux papiers pour retourner au Pakistan. Il est retourné là-bas et là-bas il s'enfuyait de maison en maison. Voilà, jusqu'à ce que la police, la brigade criminelle aille au Pakistan. Et les journaux, tout ça disent qu'il s'est rendu, mais bon, c'est pas vrai. C'était pour un peu apaiser l'histoire, mais il s'est pas rendu. C'est la brigade criminelle qui n'avait plus le choix, quoi. Quand la brigade criminelle est partie, le seul choix qu'il avait, c'est soit il vient avec eux, il accepte et il l'amène ici directement, soit il l'attrape quand même là-bas, il fera de la prison là-bas, ce qui n'est pas facile, c'est encore plus dur qu'ici. Et le temps que le contrat d'extradition se fasse.
Il a été retrouvé combien de temps après ? Quelques mois, plusieurs mois ?
Un an et une semaine après. Un an et une semaine exactement. Alors c'est la brigade criminelle qui l'a ramené. Deux personnes de la brigade criminelle. Ensuite, à l'aéroport de Roissy, je crois. Et ben, ils ont été le chercher en voiture et là, il est à la prison de Villepinte. Bon, c'est déjà une phase, hein. Après, il y en a plusieurs à passer, mais bon, là, c'en est déjà une. Donc, faut attendre le procès, faut attendre le jugement, ce qu'il va se dire, ce qu'il va avoir. Sachant que moi, je vais pas me laisser faire et je ne laisserai pas prendre 10 ans de prison.
Est-ce que tu serais prête à une confrontation ? Enfin, tu as assisté au procès, tu es prête à une confrontation face à lui ?
Oui. Oui. Ah oui, ça, c'est pas lui qui va me retenir. Non, je veux savoir. Je veux savoir pourquoi, comment. L'acte qu'il a fait, c'est que il va regretter toute sa vie. Voilà, parce que bon, je crois que c'est pas assez intelligent ce qu'il a fait, parce que bon, En me faisant ça, il pensait que c'est moi qui va être perdante, même si aujourd'hui j'étais plus là. Ben lui, il serait retrouvé un jour ou l'autre, ma famille elle se serait battue. Il aurait été retrouvé, il aurait été en prison. Voilà. Il aurait passé sa vie en prison, donc il a gâché sa vie. Voilà. Mais aujourd'hui, il a gâché, on va dire, il a gâché que la sienne. La mienne, il l'a pas gâchée.
Comment tu t'imagines ta reconstruction ? Parce qu'on peut parler peut-être de reconstruction, est-ce que tu penses que le militantisme, ou en tout cas donner un coup de main, c'est une manière, une possibilité pour se reconstruire ?
Oui. Oui. Oui, puisque on a subi quelque chose de grave dans notre vie. Si on peut aider les autres à ce qu'ils ne fassent pas la même erreur, quoi. Par exemple, moi, j'ai été menacée, j'aurais pu en parler à la police, j'aurais pu prendre une autre tournure. Donc, s'il y a d'autres filles qui sont menacées et puis qui vont voir l'association, si moi, je peux leur en parler en leur disant il faut y aller parce que voilà, moi, j'ai pas été, voilà ce qui m'est arrivé, je pense que ça peut les aider énormément.
Et un peu plus d'un an après, enfin un an et 2 mois là, c'est ça ? Comment tu te sens ? Comment tu vas ?
On fait avec, quoi.
Si! He's a lazy tom, as if to lose a tom, oh, no. He's a lazy tom, as if to lose a tom, oh, no.
Auf!
He's a lazy tom, as if to lose a tom, oh, no. He's a lazy tom, as if to lose a tom, oh, no.
Brûler une fille parce qu'elle refuse de se marier, parce qu'elle elle dit non, c'est inadmissible, intolérable. Et Sherazade, elle a beaucoup de courage. Elle continue à se battre au quotidien. Elle continue à se battre pour ce qu'elle est, parce que c'est une femme formidable. C'est une jeune fille qui a envie d'avancer et qui a envie d'avoir une place dans cette société. Et c'est vrai que c'est... C'est super de l'avoir avec nous parce qu'elle elle est aussi pour nous un modèle à suivre.
Qu'est-ce qu'elle fait, Ni Plus Ni Soumise ? Comment elle fait pour vous aider ?
Bah, nous aider, c'est, elle est venue à l'université notamment pour parler aux militants. Ça, c'était très important. Elle a quand même, elle continue à avoir des soins hospitaliers qui sont quand même journaliers. Et elle a pris la peine de venir nous voir pour parler aux militants et surtout leur expliquer comment on peut se réapproprier sa vie, comment on peut sortir de cet état où on est effectivement victime de quelque chose qui est complètement innommable. Et c'est justement, je reviens à ce que je disais au début, cet état de victime n'est pas une fatalité. Et le cas de Sherazade montre bien, c'est qu'elle elle est marquée par cette souffrance qu'elle a et cette douleur qu'elle a subie. Et malgré cela, elle continue à se battre et à garder la tête haute. Et je pense que c'est un modèle à suivre. C'est un modèle pour aussi toutes ces femmes qui aujourd'hui dans les quartiers se battent, et aussi pour toutes les femmes en France, pour qu'elles continuent à garder cette tête haute et à se dire que contre cette violence, il y a un vrai, on a des armes en français, on peut les utiliser. Alors je m'appelle Siem Apchi et mon travail aujourd'hui à Ni Pute Ni Soumise, c'est d'essayer de faire en sorte que la question de l'égalité homme-femme soit une question qui soit posée dans notre société, et je suis vice-présidente du mouvement Ni Pute Ni Soumise.
Pourquoi à Ni Pute Ni Soumise, ou en tout cas Fadela disait il faut arrêter de se penser en femme victime. Pour quelle raison elle disait ça?
Si vous voulez, ça fait des années que, notamment dans les quartiers populaires, on pense que cette violence, cette manière de vivre dans ce carcan familial, dans le carcan que peut être aussi parfois certains quartiers ghetto, que c'était une fatalité, qu'on ne pouvait rien faire contre cela. Oui, aujourd'hui, il faut arrêter de se poser en victime. Quand on est victime de violence, l'État, et en tout cas les pouvoirs publics, doivent reconnaître la personne en tant que victime, et elle a un statut, elle doit être protégée, elle doit être suivie, on doit pouvoir la défendre, et elle doit pouvoir défendre elle-même ses droits. Mais le statut de victime n'est pas comparable à cette posture du victime qui fait qu'on a du mal à ouvrir les portes, on a du mal à aller chercher aussi de l'aide, on a du mal à aller au commissariat, on a du mal à défendre ses droits. Donc c'est là un peu peut-être le paradoxe, c'est on se bat pour les femmes victimes de violences, mais on est contre la victimisation qui enferme ces femmes de plus en plus dans un statut qui ne leur permet pas d'être des citoyennes à part entière. Donc c'est un travail minutieux où c'est surtout de la prévention, comment permettre à ces femmes de connaître leurs droits, leur permettre de faire la différence entre une main courante et un dépôt de plainte au commissariat, leur faire comprendre ce que ça entraîne aussi, les conséquences, mais aussi ce que ça leur ouvre comme porte, la possibilité d'être protégées, de pouvoir retrouver leur dignité, de pouvoir reprendre leur vie en main. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui d'être une femme émancipée quand on est dans un quartier populaire? Est-ce que c'est un plus, ou est-ce que c'est finalement tellement difficile qu'on va abandonner et qu'on ne s'en sortira pas, que le système il est pourri, comme beaucoup disent, etc., etc. Donc on a choisi, malgré les difficultés, de dénoncer les violences, mais aussi en même temps de permettre, de donner les outils et pour permettre à ces femmes d'aller elles-mêmes voir l'assistante sociale, d'aller elle-même se battre auprès des commissariats, d'appuyer sur les boutons, d'ouvrir les portes, parce que sans ça, on va continuer à répéter la même chose pendant des années. On va parler de prévention de loin, et de près, on va constater la même chose. Vous voyez, on met en place des choses, mais elles ne les utilisent pas. Les femmes aujourd'hui, elles ont besoin, certes, d'être accompagnées, mais surtout, elles ont besoin d'être mises en mouvement.
Quels sont vos outils pour sensibiliser la population au sein de Ni Pute Ni Soumise, mais aussi à l'extérieur? Qu'est-ce que vous faites dans votre équipe?
Alors l'outil principal, c'est bien sûr une plateforme d'accueil des femmes en difficulté, où il y a un suivi psychologique et juridique de ces femmes pour leur permettre de sortir de leurs difficultés. On reçoit beaucoup de jeunes filles, mais aussi des mères de famille. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sensibiliser, mobiliser, notamment la jeunesse aujourd'hui. C'est vrai que l'éducation populaire dans notre pays est en perte de vitesse. Elle n'existe quasiment plus, malheureusement. Donc, on fait un gros travail de sensibilisation dans les lycées et collèges, notamment depuis 2004 avec le guide du respect.
Sarah, qui explique qu'elle se reconstruit vraiment à travers ce mouvement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il y a beaucoup de jeunes filles qui font partie du mouvement, à la fois au niveau national ou au niveau plus local, qui sortent d'histoires difficiles. Chacun a des tranches de vie à raconter. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir un équilibre entre le militantisme, qui permet de tenir bon, d'être dans le mouvement, de toujours être en action, de se battre pour les autres et à la fois de se battre pour soi un peu, puisque se battre pour les autres, c'est aussi empêcher que ça se reproduise, que cette violence se réitère, qu'il n'y ait plus d'autres Sarah, qu'il n'y ait plus d'autres Sherazade, qu'il n'y ait plus d'autres Sohan et d'autres Samira. Ça, c'est important et l'objectif, il est là. Mais en même temps, parallèlement, c'est aussi se construire pour soi et c'est un moment et c'est des moments qui sont importants et Sarah essaye aussi de continuer à se battre pour soi, à se reconstruire en tant que femme dans son intimité parce que ça compte et c'est important. Donc oui, il y a beaucoup de militantes ni pute ni soumise comme Sarah qui se reconstruisent dans et par le mouvement et qui apportent énormément au mouvement.
Ernestine René.
Il y a des observatoires en France qui existent, plutôt observatoires de l'égalité, de la parité. Donc ça existe. Observatoire sur les violences, on est les seuls pour l'instant. On aimerait bien faire des petits, mais on n'a pas encore réussi tout à fait. Même si on nous demande dans pas mal de départements, j'ai déjà été informée, on m'a demandé d'informer les partenaires là-dessus. Mais pour l'instant, on est le seul. Si je peux dire l'originalité de cet observatoire, c'est qu'on ne se contente pas d'observer l'ampleur des dégâts, mais on essaye de mutualiser d'abord les bonnes réponses qui existent déjà, et puis en même temps, à partir de ce qu'on observe, on essaye de faire des propositions et de créer des outils. Et donc, l'idée, c'est pas que les bras nous tombent, mais c'est aussi d'observer pour donner un peu d'espoir et de courage, d'énergie, on dit, à chacun des partenaires. Dernière originalité, le fait qu'on ait des initiatives fortes fait que finalement nos propositions, nos observations, nos réflexions parviennent à la population par l'intermédiaire des médias, très important pour nous parce qu'on a quand même une vraie couverture médiatique, et aussi directement par des matériels qu'on sort en direction de la population, plus tous les journaux locaux qui reprennent les choses, ce qui fait que ça fait une vraie irrigation qui parvient à la population, ce qui était aussi notre souci. Souvent, les observatoires sont un peu loin de la population. Nous, on essaye de créer un mouvement d'opinion. C'est ça qu'on voudrait.
Quels sont les outils avec lesquels vous travaillez à l'observatoire pour sensibiliser, pour évoluer, avancer? Est-ce que, par exemple, l'enquête nationale qui a été faite en 2000, dirigée par Maryse Jaspard, est-ce que vous en servez beaucoup?
Alors, l'enquête, évidemment, on s'en sert. On a même ici... on donne beaucoup cette enquête, bien sûr. Et puis, vous entendez bien que ce que je vous donne comme chiffres, c'est très important pour nous. C'est tellement important qu'on a demandé à Maryse Jaspard une étude sur la Seine-Saint-Denis, sur les jeunes de 18 à 21 ans. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a même besoin de continuer cette enquête sur les plus jeunes, puisque l'enquête nationale, c'est les 20-59 ans. On voulait avoir un travail sur les plus jeunes parce qu'on sent bien que chez les plus jeunes, il y a un problème et qu'il faut absolument mieux adapter la prévention pour les jeunes, la sensibilisation pour les parents et les professionnels, pour accompagner mieux les jeunes. On sent que là, il y a un vrai souci. Donc, comme outil, on a bien sûr l'enquête, mais on a sorti deux DVD. On en a un contre les mariages forcés, qui tourne presque dans toute la France d'ailleurs, qui tourne beaucoup. On en a un autre sur filles et garçons au collège, où on a des scénettes de théâtre de l'opprimé, justement, et puis des interviews des jeunes, et c'est rythmé par des paroles du mouvement français pour le planning familial, puisqu'en Seine-Saint-Denis, le théâtre de l'opprimé est fait par le mouvement français pour le planning familial, par des animatrices du mouvement français pour le planning familial. Donc ça, c'est un deuxième type d'outil. Un troisième type d'outil, eh bien, ce sont les affiches qui s'adresse aux hommes, que nous avons sorti, donc la première campagne qui s'adressait aux hommes, donc des affiches qui disent « si t'es un homme, tu la frappes pas, être un mâle, c'est pas faire mal », etc. Donc on a un certain nombre d'outils, des rencontres tous les ans, qui regroupent entre 600-700 personnes, professionnelles, là plutôt adressées aux professionnels, et puis ces rencontres Femmes du Monde en Seine-Saint-Denis. Par exemple, cette année, on a eu plus de 5000 personnes. Et puis, à l'occasion, là, on a sorti un bracelet « C'est mon cœur qui choisit » dans la lutte contre les mariages forcés, qui donc a été donné à 20 000 exemplaires aux jeunes et aux moins jeunes de la Seine-Saint-Denis, ce qu'ils demandaient.
Est-ce qu'on peut parler d'une montée de la révélation? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part de la population?
Oui, alors, on a une prise de conscience... Parce qu'avec les affiches, par exemple, qu'on a mises dans les commissariats, au palais de justice, dans les bureaux, dans les centres de santé, enfin un peu partout, on sent qu'il y a un plus grand nombre de femmes qui parlent. Hein. Alors après, le problème qu'on a, qui n'est pas complètement résolu, c'est comment la plainte est prise réellement, comment elle est traitée. Là, on n'a pas encore terminé notre travail, parce qu'on a encore une petite difficulté, il faut le dire, avec la police, où finalement, on a un procureur qui aujourd'hui prend bien en compte les plaintes, et ça c'est formidable, on ne peut pas dire autrement, mais derrière, enfin plutôt avant, on a la police qui dit « vous êtes sûr que vous voulez bien porter plainte ?» Vous savez maintenant, le procureur, il prend en compte la plainte. Donc c'est quand même le père de vos enfants. Donc à propos de décourager, ça peut être quand même un peu décourageant. Donc on a quand même encore beaucoup de travail à faire avec la police. On n'a pas fini. Il y a bien sûr des policiers, des commissaires formidables. C'est bien sûr pas tout le monde. Mais on sent que là, on n'est pas encore complètement arrivé au bout du chemin.
Alors Ernestine René, sur votre action, votre responsabilité au sein de l'Observatoire, vous le vivez comment? Comme une forme de militantisme?
Oui, je crois, franchement. J'étais en train de me dire, je ne devrais pas répondre comme ça, mais oui, honnêtement, oui. C'est-à-dire, à la fois, bien sûr, c'est un travail professionnel et un travail passionnant, avec quand même la chance qu'au Conseil général, j'ai un certain nombre de moyens, parce que sinon, je ne pourrais pas le faire. Des partenaires, parce que c'est quand même ça qui est formidable, et c'est à la fois du militantisme, en tout cas je le vis avec beaucoup de bonheur. Alors ça paraît totalement contradictoire de dire je m'occupe de violences faites aux femmes, quand même de l'horreur, et d'être dans quelque chose qui est quand même assez joyeux, pas parce que la thématique est dramatique, mais parce qu'on sent qu'on fait bouger les choses, qu'on fait évoluer, qu'on est créatif, qu'on donne de l'énergie. Pour moi, ce qui est formidable, c'est qu'on fait bouger la réalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mieux connaître la réalité pour la transformer. Et ça, c'est un grand bonheur, on ne peut pas dire autrement, parce qu'on a l'impression d'avoir prise sur quelque chose. Et ce qui fait qu'un travail est magnifique, c'est quand on sent qu'on est en train d'avancer, jamais seul, et ça aussi, c'est formidable, parce que le travail partenarial, c'est qu'on travaille avec énormément de gens. Et donc, le problème, c'est comment, justement, on crée les liens et l'énergie pour que tout le monde puisse y arriver. Et donc ça, c'est quand même assez formidable. Je peux pas dire autrement.
Tes larmes de sang se versent, tes larmes de tristesse je verse. Le poids de tes actes parfois me poignarde et je garde. Plaies profondes enfouies en moi, en fuyant le mal qui sur nous s'acharne, n'épargne pas et s'attarde. À l'image de ton ombre, souffrant en silence. Et si je laisse tourner les pages de ta vie, je lis des sales récits, hélas, des traces. Indélébile dessine sur mon visage ta détresse. Le temps efface peu à peu le peu de bonheur. Ton absence sonne si bien avec ma souffrance, mon malheur, mon âme pense. Et je retiens chaque jour un peu plus mes pleurs. Y'a pas de sens souvent dans ce que les miens font. Ma douleur, c'est de savoir sans pouvoir. Rien faire ami proche de la peur. Ma frayeur, c'est de jamais voir avec toi des jours meilleurs. Vivre au présent, le temps pressant, sans aller nulle part ailleurs. Derrière chaque homme, une femme souffre. Quand ton destin te pousse dans le gouffre, j'étouffe. Emprisonné, rêve empoisonné, rempli de souffle.
Je m'appelle Sarah Le Bailly. Alors j'ai 20 ans, je travaille sur Charenton pour la ville. Je travaille avec les enfants, donc c'est génial. Et je viens de Saint-Brieuc à la base, donc je suis née là-bas, en Bretagne. Quand j'allais avoir 15 ans, à la sortie de ma quatrième, mes parents ont fait un accord avec le conseil de classe, en fait. Il fallait que j'aille prendre des cours d'anglais en Angleterre. Et donc, voilà, je suis partie le 5 août en Angleterre. Donc, on avait des cours le matin, des activités l'après-midi. On était une vingtaine de jeunes. Certains garçons, dont trois frères, évidemment. C'était pas le reste du groupe, mais seulement ces trois frères-là étaient très violents. Dès le début, en fait, ces mecs, ils m'ont forcé à sortir avec le plus petit des trois frères. Donc voilà, moi, j'avais pas du tout d'idée de sexe derrière. Et finalement quand je l'ai largué, ça a été premier jour une pute, deuxième jour une coincée, troisième jour une pute, etc. Et puis trois, quatrième jour, des claques... des agressions sexuelles à répétition dans la rue. Quand je suis rentrée, premièrement, pendant une semaine, je crois que je suis restée à l'état de lavette. Et j'essaye de donner des signes à mes parents. Au début, ils n'ont rien voulu entendre, mais ensuite, quand ils ont pris conscience que ouais, bah, leur fille avait été agressée sexuellement, qu'elle avait failli se faire violer, mais elle y avait échappé, qu'un mec, tous les jours, dans la rue... mais vraiment devant tout le monde et sans aucune pitié, me passer la main entre les jambes et limite très très violent, quoi, mais vraiment très violent jusqu'à me porter. Que tous les jours, il m'insultait, limite il me crachait dessus, il me tordait les doigts, il me mettait des claques, il me touchait les seins jusqu'à m'en donner une douleur immense. Et il m'a quand même traîné par terre d'un air très cynique et il m'a jeté sur la route, sur l'avenue. Comme une vieille merde, il m'a jeté. Donc forcément, bah, ça c'était à la fin du voyage, donc je suis revenue avec pas mal de bleu sur le corps. Alors voilà comment on peut se réduire à devenir un objet finalement, parce que je me demandais même si j'étais pas moins qu'un objet à bout d'un moment, quoi. On m'a vu me faire tabasser, on n'a rien fait. Les forces de l'ordre, encore une fois. Je suis allée porter plainte, on m'a manqué de respect, on m'a pas pris au sérieux. Et on a demandé une expertise psychologique, ça n'a jamais été fait. On a demandé un tas d'éléments, ça n'a jamais été fait et ça a été classé sans suite. Un an après mon agression, j'ai lu un livre qui s'appelait « Dans l'enfer des tourmentes » de Samira Bellil. Et puis j'ai été très émue. Donc je l'avais vu à la télé, j'ai été très émue, j'ai lu son livre. J'en ai beaucoup pleuré parce que je me reconnaissais dans son caractère. Et ensuite, je suis allée dans la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Brieuc, la MJC du Plateau. Et là, j'ai demandé, bah voilà, je voudrais faire un débat avec cette fille. C'est un bon exemple pour tous les jeunes d'ici et d'ailleurs.
et ce serait bien de faire un débat avec elle. Et c'était une toute petite idée au départ, et puis finalement l'idée elle a grossi, on est devenu un collectif de jeunes filles, trois filles. On s'appelait Filles aujourd'hui, Femmes demain. Et on a contacté Ni pute ni soumise qui naissait en même temps que nous. On a vu Fadela Amara qui commençait à être médiatisée par rapport à Ni pute ni soumise. Donc on a contacté, on a monté un dossier pour Envie d'agir, on a gagné au niveau régional puis au niveau national. On a eu un énorme projet en fait qui s'est monté. Donc on a fait une journée de sensibilisation, de prévention, d'information avec le CCAS, avec le planning familial, avec le CIDF, avec plein d'intervenants locaux au sein de la MJC qu'on avait décoré à la Austin Power. C'était super marrant. Et tous les jeunes venaient jouer à des jeux, entre autres câlin malin, des jeux d'expression écrite, orale, etc. Et puis discuter dans des petits endroits un peu plus intimes avec des intervenants, toutes sortes d'intervenants, du planning familial, du CIDF. Et puis le lendemain soir, la grande soirée débat avec nos intervenantes qu'on avait choisies. Bon, c'était pas fait exprès, mais il y avait que des femmes. Mais elles représentaient toutes à elles-mêmes, chacune elle-même, quelque chose de fort. Il y avait Samira Bellil, forcément. Forcément, on pouvait pas faire le truc sans elle. Donc, qui était donc l'auteur de Dans l'enfer des tournantes. Il y avait Jamila Ait Abbas, qui avait écrit La Fatia, née en France, mariée de force en Algérie. Il y avait Fadela Amara, présidente de Ni pute ni soumise, Daniel Bousquet, député PS, et Princesse Agnès, rappeuse, engagée et marraine de Ni pute ni soumise. Voilà, et c'est un peu devenu notre sœur aussi avec Samira, enfin voilà. Quand...
Depuis quand tu milites à Ni pute ni soumise? Ça fait combien d'années?
Militer à Ni pute ni soumise, ça fait pas très longtemps, mais j'ai toujours été... C'était plus des contacts humains avant. C'était plus eux qui m'aidaient que moi qui militais. Moi, je militais, mais bon, voilà. J'étais une petite nénette qui sortait de son histoire, qui avait besoin de se guérir, tout simplement. Et maintenant, je milite pour de vrai, maintenant. Mais avant, bon, je les connais depuis le début, quoi. Voilà, Fadela, Safia, tout le monde. Et voilà, et moi aussi, c'est mon exutoire de faire tout ça. Ça me fait du bien. Ça m'aide. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ça me vide. Et puis j'ai envie que les gens ils sachent que c'est dégueulasse, quoi. Moi, j'ai pas eu le sentiment de justice une seule fois dans ma vie depuis que ça m'est arrivé, donc j'ai plus confiance, quoi. Enfin, j'ai plus envie d'être une victime, donc c'est pour ça que je fais tout ça maintenant. Mais même plus tard, quoi, je continuerai à militer parce que je pense que les choses, elles doivent évoluer. Puis, en France, c'est peut-être un pays génial pour les autres pays, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire.
C'était Sur les docks, violence à l'égard des femmes. Avec Sherazade Beliani, Siem Apchi, Sarah Lebailly, Ernestine Ronet, Maryse Jaspard, Françoise Gaspard. Merci à Najib Selali pour les archives du mouvement Ni pute ni soumise, et à l'Observatoire contre les violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis pour les extraits « Filles et garçons au collège » réalisés par Stéphane Gatti. Mixage Simone Ronget, réalisation Guillaume Baldi, une émission de Johanna Bedeau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 mars 2007.